Vous écoutez France Culture.
Le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Élodie Chaumette, qui est de retour pour son choix d'album ou de roman, nous verrons tout au long de l'année. Éric Deniel, qui est libraire et directeur d'une nouvelle collection de romans engagés destinés aux jeunes, bien sûr, à partir de 9 ans, et c'est aux éditions Le Muscadien, tout jeune éditeur. Et puis Philippe Milberg, qui est auteur de 40 jours d'automne, paru justement, vous l'avez deviné, aux éditions Le Muscadier. Décida enfin à me parler. Ce que j'ai à te dire est très important, mais prendra beaucoup de temps. Si tu veux en apprendre autant que moi sur l'avenir du monde, il faudra venir me voir souvent. Nous nous installâmes donc face à l'horizon, adossés à un mur de pierre chauffé par le soleil, et je ravalais mes questions pour ne pas la braquer. Elle commença ainsi. Ce que j'ai appris, c'est en regardant, en écoutant, en silence, en apprenant des langues interdites. Je ne comprenais pas toujours du premier coup, alors j'écoutais la musique des mots, les inflexions des voix, la profondeur de la parole, et petit à petit, des images et des sensations m'ont mise sur le chemin. Par exemple, mon grillon, Negrito, je ne l'ai pas compris tout de suite. Beaucoup de ce que je vais te raconter m'a pourtant été confié par lui, et maintenant j'ai la tâche de le dire à d'autres. Capito, entiendo? Je répondis d'un signe de la tête et Carmel a poursuivi. Tu vois ces outils posés là contre le mur, la binette, la fourche et la petite hache aussi, regarde-les bien. Prends-les dans tes mains et dis-moi ce que tu en penses. Je m'exécutai sans attendre, inquiète du piège que Carmela m'avait peut-être tendu. Eh bien, je les trouve lourds, un peu lourds, sans doute parce qu'ils sont vieux. On en fait des plus légers, tu sais, aujourd'hui. Regarde mieux, tu ne trouves pas combien le bois est doux? Caresse les manches, sens, regarde bien. Je découvris alors sur le haut des manches de petits dessins, finement gravés, des oiseaux en vol, un soleil ou une demi-lune, et encore des oiseaux. Carmela jubilait. Bravo, bravo, ça y est, tu vois, et alors il te parle? Devant ma perplexité, elle éclata de rire. « Bon, je vais te traduire pour le moment. Après tout, c'est ton premier jour, ta première leçon. Tu vois ces dessins, la finesse de leurs traits, tu vois? Pourtant, ils ont été gravés par des mains de travailleurs. Ils ont résisté à plusieurs générations de mains qui ont transpiré, souffert sur ce bois. Ces dessins ont été gravés à la pointe du couteau. » La main qui les a dessinés était celle du paysan qui venait de plier son mouchoir après l'avoir secoué des miettes de pain et des croûtes de fromage de son repas de midi. Il prenait un peu de repos, assis à l'ombre de l'arbre, celui-là, là-bas, au bout du champ. Son gros pouce à la peau rugueuse nettoyait régulièrement le dessin en train d'apparaître sous la lame. Son souffle s'est fait plus profond, plus vaste, plus calme. Il a oublié un instant le trop long hiver de cette année-là et les récoltes qui ne suffiraient peut-être pas pour passer le suivant. Negrito m'a dit qu'il s'est même assoupi une fois l'oiseau dessiné et que devant la pureté, la finesse de son trait, Pantaléon, oui, il s'appelait ainsi mon aïeul, Pantaléon, s'est envolé au-dessus des montagnes, il est allé jusqu'à la mer et est revenu terminer son sillon. Tout en écoutant Carmela, j'avais entrepris de dessiner sur mon bâton de marche en aluminium zikral une fleur, mais la pointe de mon stylo s'écrasa lamentablement sans laisser aucune trace, sauf un petit enfoncement dans le métal et une tache d'encre que Carmela ne vit heureusement pas. Tu vois, quand je prends les manches de ces vieux outils, ils me donnent des ailes pour continuer à avancer vers de nouveaux horizons. Et moi j'irai de l'autre côté de la mer même. Je vis alors dans les yeux de Carmela une lueur, la promesse qu'elle irait au bout de ses rêves. Philippe Milberg, je vous voyais très attentif. Vous aimez qu'on vous raconte des histoires, vous qui en contez de si belles dans vos romans pour adultes, ou dans vos chansons, ou du théâtre. Et là, pour la première fois, un roman jeunesse pour les petits, 9 ans, à partir de 9 ans,
on peut dire. 9, 10 ans, on peut dire, oui. Oui, j'adore ça. J'adore qu'on me raconte des histoires, parce que c'est l'essence même de la littérature, l'oralité. Quand on commence à écouter une histoire, on a un monde qui vient, et ce monde-là, il vous emporte.
Alors vous, vous nous emportez avec 40 jours d'automne, pas dans le monde entier, mais dans beaucoup de parties du monde, puisque à travers des recettes de cuisine et les légendes qui parfois sont sous ces recettes de cuisine, ou à côté ou au-dessus, je ne sais pas comment le dire, comme la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, effiler la métaphore culinaire, puisque ce livre est un livre culinaire aussi, avec des recettes, certaines je vais essayer de les faire. Donc avec 40 jours d'automne, vous nous amenez dans des contrées du monde où finalement les gens sont souvent obligés de fuir, pour des raisons économiques ou d'autres, leur pays.
Oui, la première cause de l'immigration est une immigration économique, c'est évident. Pourquoi je mets des recettes de cuisine ? D'abord parce que j'adore manger, j'adore faire la cuisine, mais aussi parce que c'est le premier lien social. Quand vous allez quelque part, on vous invite, on partage la nourriture, et quand on regarde, on s'aperçoit que tous les pays ont un rite avec la table et ont des recettes qui sont extraordinaires de convivialité.
Alors, bien sûr, on va revenir sur ces recettes, elles sont importantes, et surtout comment elles vont servir le récit, la narration, dans quelles conditions on va fabriquer ces recettes. Mais je voudrais dire quand même que dans ce livre, très vite, la question de la langue est importante. Et vous y allez fort, et je pense que les enfants sont quand même tout à fait conscients de ce qui se joue derrière la langue. Parce que entre 9 et 10 ans, on commence à leur dire quelle langue tu vas choisir au collège, etc., etc. Alors voilà ce que vous dites. Je lis un extrait. Vous parlez là de Stélian, qui est un homme qui est venu en France avec sa petite fille comme immigré. Et il dit ceci. Mais dans son école, ses professeurs lui avaient dit qu'il valait mieux apprendre l'anglais, que c'était plus utile, que tout le monde parlait anglais, que c'était la langue des affaires, qu'il fallait faire des affaires, que bientôt les affaires à faire dans le faire se feraient en anglais ou ne se feraient pas, que faire et défaire, c'était toujours travailler. C'est le plus important, travailler surtout en anglais. Dès lors, il avait appris l'anglais, ne sachant que dire ni que faire pour faire autrement. Et jamais, mais jamais de sa vie, je te l'assure, il n'avait prononcé un mot d'anglais après avoir quitté l'école. Il n'aimait pas cela. Il ne comprenait pas pourquoi un Chinois et un Russe devaient se parler en anglais pour se comprendre. Il ne pouvait pas apprendre le Chinois, le Russe. Et puis, lui, dans son métier, personne ne parlait anglais. Par contre, le français lui aurait été bien utile. Ça, oui, pour son travail, bien sûr. Mais surtout après sa rencontre avec Rémi. Et plus encore, lorsqu'il a décidé de venir avec Lulia vivre en France. Donc là, on voit aussi votre langue et le goût que vous avez des mots que l'on va retrouver tout au long du roman. Et mine de rien, vous en apportez beaucoup du vocabulaire à ces petits.
Oui, je ne vois pas pourquoi j'irais écrire autrement pour les enfants que pour les adultes. Et l'histoire est portée par le vocabulaire. Donc, tant qu'à faire, autant apporter du vocabulaire qui peut être en même temps un support pédagogique pour apprendre des nouvelles choses. Là, en l'occurrence, ce passage-là me tient beaucoup à cœur, parce que je suis d'une génération où on n'avait pas forcément l'anglais obligatoire. Moi, j'ai commencé comme étant allemand première langue, j'ai fait anglais deuxième langue, bien sûr, mais ma sœur a fait russe deuxième langue. Et j'ai fait du latin, j'ai fait du grec. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde doit faire de l'anglais. Il se trouve que professionnellement, ça m'arrive de participer à des réunions internationales. On se débrouille nettement mieux quand on peut directement discuter avec la personne sans passer par une langue tierce que ni lui ni moi, nous ne maîtrisons complètement. Et là, en l'occurrence, dans l'histoire, Stélian aurait beaucoup mieux fait d'apprendre le français. Simplement, ce n'est pas la langue que l'Europe a choisie. C'est une des difficultés du temps moderne.
Alors l'Europe n'a pas choisi non plus d'accueillir, alors on le voit avec des rebondissements tout à fait récents, notamment de notre ministre de l'Intérieur, c'est comme ça qu'on dit, notamment pour les Roumains. Hein. Mais quand vous avez écrit ce livre, parce que moi je l'ai lu avant les vacances, bon, on savait très bien qu'ils n'étaient pas très bien accueillis déjà, c'est pas nouveau malheureusement, mais on n'en était pas là. Et En plus, ce Roumain-là, il a une vie particulière. Il vit avec sa fille, qui est très dégourdie, qui est très ouverte. Lui est plus renfermé. Alors, sans doute parce que sa langue, au début, lui pose problème. Il ne sait pas parler le français, comme il vient de l'expliquer. Mais aussi parce qu'il a une vie, on le comprend à la fin, une vie sexuelle différente de ce que lui peut imaginer être accepté partout, peut-être en Roumanie d'ailleurs, qu'il vit avec un homme, Rémi.
Oui, oui, oui.
C'est une immigration amoureuse, apparemment.
C'est
celle-là.
Une immigration amoureuse, ce n'est pas une immigration économique. En l'occurrence, c'est deux personnes qui se trouvent et l'une décide d'aller vivre dans le pays de l'autre. Si j'ai choisi de parler d'un immigrant roumain, ce n'est pas un hasard. C'est qu'en 2015, la Roumanie sera totalement intégrée à l'Europe. Et déjà aujourd'hui, il y a une libre circulation des biens et des personnes et qu'on confond souvent les Roumains avec les Roms, etc.
Et que même les Roms ont le droit.
Et que les Roms ont le droit parfaitement de circuler. Actuellement, il y a encore des clauses restrictives dans l'immigration roumaine comme dans l'immigration bulgare, mais celles-ci vont sauter. J'aurais pu prendre un pays. À un moment, j'ai eu l'idée de travailler sur les centres de rétention. Simplement, c'est moins porteur de positif. On va le dire comme ça,
d'espoir
que la situation que j'ai décrite, qui n'est pas une immigration économique. En fait, autant dans les textes que je peux écrire pour les adultes, je vais être dans la dénonciation, montrer l'état des choses tel qu'elle est, autant pour les enfants, je me suis dit que ça serait bien de travailler... puisqu'ils étaient déjà assez sollicités par les informations extérieures, de travailler sur une société qui pourrait être en devenir, montrer ce qu'elle pourrait être et non
pas
ce qu'elle est.
Est-ce qu'ils le captent, ça, les enfants ? Vous avez eu des réactions ?
Oui. Alors, pas mal dans mon entourage et puis aussi sur les blogs, puisqu'il y a pas mal de blogs qui sont consacrés à la littérature jeunesse. Et il y a entre autres un blog où il y a une petite fille qui tient une chronique sur les livres jeunesse pour sa maman, où elle a fait des commentaires. Elle a 8 ans et demi.
C'est
un bon début. Je pense qu'elle va aller loin. Et elle a été assez fascinée par les recettes. Déjà, mais aussi par le fait que des adultes puissent avoir des difficultés pour apprendre la langue. Ça, c'est des choses que les enfants, eux, voient pour eux, mais ne voient pas forcément pour les adultes. Et puis après, y a un petit reproche, c'est que là, j'ai utilisé un style qui est un style de conteur, donc il y a une adresse directe au lecteur, puisque je le prends à partie, j'essaye de l'emmener quelque part, et elle n'aime pas ça, parce qu'elle trouve que ça fait un peu bébé, quoi, que ça fait un petit peu... Voilà. Mais c'est une vraie lecture. Quand j'ai lu sa chronique, j'étais assez étonné de la finesse de la retranscription.
Vous voyez, Elodie Chaumette, il y a de la concurrence qui arrive. On verra ça tout à l'heure.
Sur les blogs, on voit que les enfants ou les adultes ont une lecture complètement différente des critiques ou des professionnels de la littérature. Les adultes.
Alors, peut-être un jour on invitera plusieurs critiques autour de cette table. 40 jours d'automne, on ne va pas donner le pourquoi de ce titre parce que c'est une très belle légende. On vous l'a raconté ou c'est vous qui l'avez inventé ?
Non, c'est moi qui l'ai inventé.
D'accord, je pensais qu'elle arrivait tout droit des Carpates.
En fait, pour la petite histoire, le gâteau des Carpates n'est pas du tout celui-ci. Simplement, les légendes, ce sont des paraboles. Et je les utilise beaucoup dans mes écrits, même dans mes écrits adultes, pour expliquer.
Et la corderie, alors après, on va parler un peu quand même de cette nouvelle collection, mais la corderie, c'est une association, et ça existe, parce que je trouve que c'est un joli nom. Ça m'étonne pas.
C'est un concept canadien qui a été importé en France, et qui actuellement est porté dans le 19e à Paris.
Il y a une corderie 19e arrondissement.
19e arrondissement, et il s'est trouvé que j'ai accompagné la régie de quartier qui était aussi partie prenante dans ce projet de la corderie, et c'est comme ça que je l'ai découvert il y a 3 ou 4 ans.
En fait, c'est un lieu d'échange de services sans argent qui circule.
Voilà. C'est pas très loin des selles ou des autres, simplement c'est des comptants, et donc c'est pas monnayé, il n'y a pas de réciprocité obligatoire.
D'accord. Bon, on en apprend dans ce livre pour les à partir de 9 ans, je pense que en plus le personnage, la petite fille est très un personnage auquel on peut s'identifier.
Il a oublié de dire quelque chose de très important.
Allez-y, Eric Deniel, vous êtes son directeur littéraire.
C'est pour lui dire qu'il faut travailler. Il en a prévu 9 en tout. Donc,
il y aura
9 romans avec les mêmes personnages dans le même village.
Ah bon, bon. Ah donc, il va falloir... Ah, il faut... Oui, c'est... Oui. Mais t'as mieux, parce qu'on s'y attache tout de suite. Hein.
Bah, le deuxième se passe, à Loulia se passe avec les mêmes personnages et toujours avec la même école.
Avec un très beau titre, « Plus belle la ville ». Voilà. Et c'est vous qui l'avez trouvé en premier.
Oui.
Je le dis parce que... Alors... Éric Deniel, vous devez être heureux en tant que directeur de collection. Vous êtes libraire. Vous, alors on vous lit de temps en temps dans la revue des libraires jeunesse Citrouille. Vous avez participé au jury des prix des pépites du Salon du livre de jeunesse de Montreuil. Peut-être encore cette année, je ne sais pas. Non, pas cette année. Et vous avez créé cette nouvelle collection chez un tout jeune éditeur qui s'appelle Le Muscadier. Comme le nom de l'arbre, ça doit plaire à Philippe Milberg, parce que la muscade, c'est quand même pas désagréable.
C'est délicieux.
Hein, c'est délicieux. Alors, en deux mots, Le Muscadier. Et puis après, pourquoi avoir trouvé si vite dans cette jeune maison d'édition le besoin de créer une collection jeunesse qui s'appelle Place du Marché ? On ne quitte pas la table.
Je vais commencer par expliquer le titre. Oui, on ne quitte pas la table, mais Place du Marché aussi, c'est pour faire une balance. J'avais pensé, plutôt que le marché prenne toute la place, c'est à nous de nous réapproprier la place du marché.
D'accord.
Donc la place des palabres, des discussions
et des rencontres.
J'ai rencontré par hasard le Muscadier au téléphone. C'est rare de se rencontrer par hasard au téléphone, dans la rue, mais au téléphone,
en général, on a son numéro. Mais
la librairie dans laquelle je travaille est en
collaboration. À Mantes-la-Jolie.
À Mantes. Travaille de temps en temps avec les amis du diplôme.
Du monde diplomatique.
Ils avaient organisé une réunion autour de leur livre Alter Gouvernement. Et j'ai reçu un coup de téléphone de la personne du Muscadier.
Alors, vous rencontrez ce jeune éditeur qui ose monter une maison d'édition aujourd'hui, militante, enfin en tout cas engagée plutôt. Et comment vous en arrivez à créer une collection jeunesse?
Parce que j'aime bien parler, donc j'ai parlé au téléphone avec Emmanuel Courtet. Je lui ai dit que la librairie, ça faisait 25 ans que j'en faisais. Je commençais un peu à tourner en rond et j'avais envie de faire de l'édition. Et elle m'a dit, mais venez chez nous. Et au bout de quelques jours, ça part une évidence. Le Muscadier fait des livres engagés, sociaux. Il n'y a plus qu'à faire la même chose pour les enfants.
Alors ce goût de la littérature jeunesse, vous l'avez depuis longtemps. Vous pensez que ça peut marcher une collection de romans? Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui pour la jeunesse.
Ça peut marcher, j'espère, je ne sais pas du tout. Place du Marché, c'est un espace qui n'existe plus pour cet âge-là en roman. Ça existe en album. Il y a des éditeurs quelques éditeurs que je peux citer que vous connaissez très bien.
Allez-y.
Il y a Rue du Monde qui fait un travail remarquable. Mais après, ça manque un peu. Il y a eu un éditeur qui a disparu et qui n'existe plus.
Est-ce que les enfants, par exemple, viennent dans les librairies et demandent, disent, on voudrait des romans plus ancrés sur le réel, qui nous parlent aussi du monde autour de nous, qui nous font rêver positivement, qui nous offrent un monde peut-être à construire? Est-ce qu'on sent ça, ce besoin chez les jeunes? Est-ce que vous discutez avec les jeunes lecteurs sur leur choix?
Franchement, ça n'arrive pas souvent en librairie. Non, ça arrive dans la vie, comme ça, en discussion, mais en librairie, pas énormément. Mais moi, je sens quand même qu'il y a un besoin. Peut-être mon côté optimiste.
Bon, alors, on a combien de titres? Pour l'instant, 3.
Pour l'instant.
Vous les sortez par 3 à chaque fois?
Non. Parce que c'est 3. Un énorme boulot en plus du boulot de libraire.
Alors, il y a Promesse de Julia Billet.
Julia Billet, c'est pareil, c'est Mantes.
Mantes-la-Jolie.
Mantes-la-Jolie. Elle a été longtemps professeure de français à Mantes, donc je la connaissais. Et elle m'a envoyé un très court texte qui était paru il y a une dizaine d'années au Baron Percher. Le Baron Percher a disparu. Elle avait été frappée par la destruction des tours du Val-Fouré, d'une des tours du Val-Fouré. Et donc, autour de cette destruction, elle a inventé une histoire. Donc, c'est la dernière, qui s'appelle Le Fil Invisible. Elle m'a fait lire ça. J'ai trouvé ça magnifique, très beau. Et là, c'était un peu court. Et je ne voyais pas comment on pouvait changer une virgule. C'est une telle écriture, c'est Julia Billet. Et donc, je lui ai dit, comme on ne peut rien changer, ce qui serait bien, c'est que tu me fasses une autre nouvelle en miroir pour répondre.
C'est une bonne idée, parce qu'il y a peu de livres de nouvelles jeunesse. Ouais. Déjà, il n'y en a pas tant que ça pour des rayons adultes, mais alors jeunesse, c'est encore plus rare.
Il ne faut pas dire que ce sont des nouvelles, parce que les gens n'aiment pas.
Oh,
mais
bon.
Non, mais c'est très bien.
Bon, enfin, c'est deux petits récits.
Elle m'a dit, j'y réfléchis, et une semaine après, j'avais dans la boîte mail, elle m'avait écrit la première nouvelle. comme ça m'a fait pleurer, ça m'a plu, donc j'ai
voilà,
dit d'accord.
Donc voilà, si vous aimez pleurer, ça peut être très agréable. Vous, voilà. Les Orphelins d'Amérique, Michel Piquemal, qu'on a reçu plusieurs fois ici, et qui est aussi un grand écrivain pour les jeunes, hein, et pas seulement, jeunesse. Et les trois prochains, alors il y a...
Alors, un grand coup de chapeau à Michel Piquemal. C'est un auteur jeunesse
très connu.
C'est énorme, qui m'a fait une totale confiance. Et quand il y a Michel Piquemal qui entre au catalogue, les autres auteurs ne se posent pas de questions et viennent nous rejoindre.
Et donc les prochains, qui sortent en octobre, là, dans quelques jours.
Le 17 octobre.
17 octobre, c'est pas loin.
Le prochain d'un jeune auteur qui s'appelle Philippe Milberg. Philippe Milberg,
non, on en a parlé.
On en a parlé. Ça s'appelle Plus belle la ville.
Ouais.
Christophe Léon.
Ah, lui aussi.
Quatre fables qui s'appellent Pense-bête autour de la condition animale. Mais la condition animale, pas traitée de manière larmoyante, ce qu'on entend habituellement, mais vraiment tonique, dérangeante et très, très, très drôle. Et alors, j'avais envoyé au tout début le cahier des charges à Patrice Favaro. Et il va écrire, c'est écrit, du sable entre tes doigts. Ça va expliquer aux enfants comment fonctionner, quelles sont les conséquences des emprunts toxiques aux États-Unis.
Et donc, ça se passe dans une ville où les gens sont chassés de leur maison.
J'ai pleuré trois fois, je l'ai lu 10 000 fois. À chaque fois, je ne me suis pas avoir.
Mais c'est tonique, c'est drôle. Oui, qu'on pleurait tant quand on était...
Mais les garçons ont le droit de pleurer. Enfin.
Oui, mais vous n'allez pas faire pleurer tous les enfants France, non. Quand même.
Non. Mais je pense que c'est... Les adultes pleurent plus facilement que les enfants en littérature.
Oui, c'est vrai.
Mais pas dans la vie.
C'est vrai. Bien, bah, écoutez, moi, je trouve très, très tonique et très encourageant ces livres qui sont magnifiques et joliment édités, il faut le dire, des belles couvertures, soignées, avec des beaux dessins, des belles photos, parfois des cahiers, si c'est nécessaire, à la fin du récit, comme sur celui de Piquemal, par exemple, où en annexe, évidemment, on va voir quelques éléments, des photos sur des enfants des rues. Voilà, merci pour cette nouvelle collection, c'est Place du Marché, c'est aux éditions Le Muscadier, il y a un site où on trouve tout ceci, et un éditeur très sensible, et ça nous plaît autant, Buissonnier. Élodie Chaumette, à vous.
Rebonjour Aline, en cette rentrée tardive pour moi.
Ben oui, mais il faut prendre son temps, c'est tout ce qu'on apprend dans le temps buissonnier, alors vous avez bien fait.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler du corps qu'on a exposé en été, qu'on a libéré en été, qui se retrouve en ville et donc on va le retrouver dans les livres là. Alors le premier livre dont je vais vous parler s'intitule « Mon corps et moi » de Sophie Coucharrière. Et c'est un album documentaire sur le corps humain destiné aux enfants de 3 à 6 ans, en gros de maternelle. Et cet album répond avec beaucoup de tact, je trouve, à toutes les questions que naître, grandir, manger, dormir, bouger peuvent susciter chez des petits. Et il a pour grand intérêt de ne pas s'arrêter à une description physiologique ou mécaniste du corps, ce qui est quand même souvent le cas dans ce genre d'album explicatif. Alors on y trouve quand même des explications.
Oui, parce que c'est utile, hein. Oui, de les avoir aussi, parce qu'on voit des adultes qui ne connaissent pas leur corps,
c'est vrai.
Comment ils fonctionnent.
Non, mais là, tout y est. Donc, on a des explications sur les grandes fonctions corporelles, sur l'anatomie, mais on a aussi des développements psychologiques sur le rapport au corps, comme parler avec son corps, prendre soin de son corps. Et donc, à cet égard, pour vous donner quand même un exemple un peu plus précis, les chapitres « Sauter, courir, grimper et patauger et nager dans l'eau » sont particulièrement réussis. Vous l'entendez déjà dans leur titre, je pense, parce qu'on aurait pu imaginer des énoncés rébarbatifs du type « Le corps en mouvement ». Bon, voilà, moi, je suis très forte pour les énoncés rébarbatifs. Donc, courir, sauter, grimper, c'est avoir un squelette qui nous permet de tenir debout, des muscles pour la force et l'impulsion, certes, mais avant tout, c'est un plaisir, et un plaisir qui se dit aussi au travers d'expressions variées que l'album explicite et illustre avec humour. Donc on peut sauter comme une grenouille, courir comme une gazelle, marcher comme une araignée ou ramper comme un serpent.
Grimper comme une chèvre, non, moi je grimpe beaucoup donc je sais.
J'étais sûre que ça vous plairait. On ne se sent donc pas découpé en morceaux ou observé à travers la loupe du scientifique, mais abordé comme un être de corps et d'esprit à la fois, ce que nous sommes, n'est-ce pas? Surtout vous Aline. Et donc dans le chapitre « Tous pareils, tous différents », le corps est aussi décrit selon ses particularités culturelles, la langue qu'on parle, la manière qu'on a d'exprimer ses émotions, ce qui fait de nous des êtres complets. Voilà, le
et deuxième... sociaux.
Et sociaux, bien sûr. C'était bien ce que j'entendais par là. Donc, c'est « Mon corps et moi » de Sophie Coucharrière et Alexandra Pichard aux éditions du Père Castor. Le deuxième livre...
Ah, mais il a l'air rigolo, celui-là.
Il s'intitule « La sorcière verte a mal au ventre ». Oui, parce qu'on peut aussi parler du corps et de ses désordres au travers de la fiction. Alors, que lui arrive-t-il à cette sorcière verte? Elle hurle depuis le fond de sa tanière. « Nom d'un petit chapeau pointu, cela suffit, je n'en peux plus !» La pauvre a mal au ventre parce qu'elle n'est pas allée aux toilettes depuis une semaine. Et si les sorcières ont des recettes pour vous transformer en grenouille, elles sont bien embêtées lorsqu'il s'agit de traiter leurs propres problèmes de digestion. Elle a tout essayé, bave de crapaud, pâte d'araignée, jus d'escargot, etc. Mais rien n'y fait. En désespoir de cause, le ventre tellement gonflé qu'elle a du mal à décoller sur son balai, elle part voir le grand mage. Nom d'un hibou sans bec ni cou, oui, maintenant je comprends tout, lui répond-il lorsqu'elle énumère ce qu'elle a mangé. Des galettes, du saucisson, du pâté, des bonbons.
Bah, tout ce qui est bon, quoi. Moi je comprends pas, hein, Philippe.
Le mage va vous expliquer, Aline. Le mage fait apparaître des fruits et des légumes du monde entier, lui prépare un potage qui la guérit immédiatement. Et elle rentre chez elle cultiver un potager. Alors, comme je suis un peu empruntée, un peu mijaurée, je me suis cachée derrière des périphrases pour vous présenter l'histoire. Vous saurez quand même apprécier que je n'ai pas essayé non plus d'utiliser Freud ou Rabelais pour justifier le thème scatologique. Mais en réalité, le texte de Viviane Lelon-Verdier, écrit en octosyllabes, est particulièrement drôle. Effectivement rabelaisien par endroit, par le thème évidemment, mais aussi par les inventions langagières qu'il y a dans les jurons de la sorcière verte.
Nom de pétard qui a pris l'eau, mais je ressemble à un crapaud. Par les bretelles de mon grand-père, je vais finir nu comme un ver. Ça me plaît ce livre, moi.
Les illustrations, quant à elles, sont le fruit des collages de Fabienne Pierron. Et je tiens à dire que l'expressivité des visages est rendue avec beaucoup de talent en quelques traits et quelques morceaux de papier de couleur.
Ma préférée, c'est quand même « Nom d'un bonnet en poil de rat, tu ressembles à un sac de noix ».
C'est aux éditions de La Petite Fripouille, Aline.
On a le temps peut-être pour un tout petit. Alors, celui-là, vous êtes obligé de dire. Alors là, vous pourrez pas vous cacher derrière votre beau langage, parce que le titre, hein, il dit bien ce qu'il veut dire.
Voilà, tout à fait. Pour clore cette chronique en restant dans le thème, je vous renvoie à un ouvrage que, en plus, que je n'avais pas osé présenter la dernière fois, puisqu'il y avait des invités qui parlaient de thèmes sérieux et tristes, comme
oui,
la guerre.
Nous, là, ici, oui, on pleurait, mais ce n'était pas des thèmes sérieux, donc allez.
C'est donc le livre de Pierrick Bizinski et d'Alex Sanders, Caca et pipi, à l'école des loisirs, un album qui joue sur tous les termes commençant par les phonèmes caca, cacao, donc cacahuète, cacatoès, dans une petite histoire ridicule, mais qui fait beaucoup, beaucoup rire les enfants de mon entourage. Donc, je vous le conseille.
Merci à tous d'être passés dans ce temps buissonnier. C'était très agréable. Je suis ravie parce que c'est plein d'espoir. Un nouvel éditeur, une nouvelle collection, des auteurs plus anciens ou nouveaux. Et tout ce qu'il faut pour avoir envie de vivre et d'aller loin. Et en quittant les chemins buissonniers, on peut réécouter, bien sûr, ou télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. On y retrouvera toutes les références de votre maison d'édition, etc. Et puis, les albums dont Élodie Chemette vient de nous parler. Le temps buissonnier, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Aline Paillet, Brigitte Bouvier, Annie Comier, Élodie Chemette et Alex. Technique, Emmanuel Morse d'un camp. Il n'y avait que des femmes pour vous encadrer, messieurs. Vous continuez à cheminer, bien sûr, vous, chères auditrices, chers auditeurs, avec France Culture et en compagnie de Marie Richeux.